Et je vous invite à prendre une Bible. Nous avons des Bibles à l'entrée. Si vous voulez emprunter une Bible, c'est utile. Gabriel va la distribuer. Merci. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours la prendre avec vous. C'est un don parce qu'on veut que chacun, chacune ait accès à la parole de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir cette Bible. On va regarder le chapitre. 1 Samuel, on est en 1 Samuel, on continue notre série. Je mets mes pages dans l'ordre. Et on va continuer notre série en 1 Samuel. On a regardé cela pour plusieurs semaines et on va continuer jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin du livre. Mais aujourd'hui, on va regarder trois chapitres, chapitres 21, 22 et 23 de 1 Samuel. Avec le thème fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Avez-vous remarqué comment les grandes décisions que nous prenons ont toujours des conséquences sur des petites choses? Comme grande décision, peut-être que tu as décidé que tu vas devenir un athlète de haut niveau. D'accord? Si c'est ta grande décision pour ta vie, dans 3 ans, je veux être un athlète de grand niveau, de haut niveau, il va falloir que. Ben, vendredi soir, tu n'avais pas à manger des frites à la place Jourdan. Si tu as un match samedi, tu veux être au niveau. Ça va avoir une incidence sur combien tu dors, sur ton régime, sur plein de petits choix dans ta vie vont être affectés par cette grande décision. Ou si tu décides de réussir tes études, tu vas t'y mettre pour réussir tes études. Pasteur Jordan, il vient de terminer ses études de théologie, il les a fait pendant qu'il avait un boulot à temps plein. Mais comment est-ce qu'il a pu arriver à ce résultat? C'est parce qu'en soirée, il lisait des livres de théologie. Le samedi, il se disciplinait pour dire non à certaines activités, à certains loisirs, pour écrire ses rédactions. Vous voyez, c'est les petites choses qui montrent si on est vraiment prêt à payer le coût pour accomplir les grands pas. Faire les grandes choses que nous avons décidées. Aujourd'hui, nous parlons de David, qui est pourchassé. Et on va voir à travers ce récit qu'il faut être fidèle dans les petites choses. David n'est pas vraiment notre objet principal aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est comment les autres réagissent. Les gens qui rencontrent David, qui vont se positionner pour ou contre David, mais ça va se voir à travers des petites choses qu'ils vont faire ou dire. Certains seront fidèles, d'autres vont lui tourner le dos, vont être des traîtres et vont le trahir. Et la raison que ça nous concerne est que David est comme l'ombre de Christ. David était un personnage historique, un vrai homme, mais il représente quelque part un certain type de personne qui nous montre en fait comment Jésus va être. Si vous imaginez la ligne de temps avec Jésus et la croix au centre du projet de Dieu, et la lumière brille sur Jésus, derrière lui, il y aurait une ombre. Et cette ombre remonte jusque dans l'Ancien Testament. À travers l'Ancien Testament, on voit déjà un petit peu les caractéristiques de celui que Dieu va envoyer pour être son Messie, celui qui est choisi par Dieu pour régner. C'est quelqu'un qui va être plusieurs siècles après David, mais il va être né à la même ville et de sa descendance, il va venir, le Messie que Dieu a choisi pour régner. On voit à travers la vie de David que le Messie sera victorieux. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Victoire. Mais ici, dans les chapitres 18 jusqu'à 23, cette section-ci, nous voyons que le Messie souffre. Ce sont en fait les souffrances du Messie qui sont frappantes ici. Et lorsque Simon Pierre réfléchit à l'Ancien Testament, en 1 Pierre, il décrit ceci, que les prophètes ont prédit les souffrances de Christ et les gloires qui suivraient. Christ lui-même, le Messie choisi par Dieu, excusez mon micro, Christ lui-même, le Messie choisi par Dieu, allait souffrir avant d'avoir ce moment de gloire où il montait dans la gloire, régnait à la droite de Dieu. Et donc la question pour nous, c'est comment allons-nous réagir? Comment allons-nous suivre quand le Messie souffre? Être fidèle pourrait nous coûter cher. Le trahir pourrait être tentant. Vous voyez, ça touche vraiment à ce que c'est d'être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas seulement venir le dimanche matin, chanter quelques beaux chants, entendre un message qui nous inspire et puis repartir dans la semaine et vivre notre vie. Être chrétien, c'est vivre pour Dieu selon cette grande décision. On a décidé de vivre pour Jésus, mais dans les petites choses, les petits choix de tous les jours. Vivre autant pour Jésus le lundi matin que le dimanche matin et le vendredi soir également. Dans les petites choses, les petits moments de la vie montrent où est notre loyauté. Sommes-nous loyaux, engagés envers le Messie ou pas? On reprend le récit au chapitre 21. Chapitre 21, on va le survoler. David n'est pas exemplaire dans ce chapitre. Malheureusement, David montre toute sa faiblesse et il se rend d'abord dans une ville qui s'appelle Nob, c'est une ville d'Israël. Là, il va rencontrer un prêtre, c'est une bonne chose qu'il va le trouver, mais il va lui mentir. David est désespéré et il lui demande « Donne-moi du pain ». Et le prêtre, gentiment, va lui donner du pain qui est consacré. Il va le donner parce qu'il voit que David est en détresse, il a besoin d'aide. Et par loyauté, il va lui donner ce pain-là. Et il a besoin d'une épée. David est désarmé. Il n'a pas ses armes comme ça dans l'image là. Mais voilà, il n'a pas d'épée. Et Achimélec, le roi, va lui donner son épée. Une épée de Goliath, en fait, qu'il avait vaincu lui-même. Mais David ment. Et puis, si vous regardez plus loin, dans le chapitre 21, il s'en va dans la ville de Gath, il va dans le territoire ennemi, et là, il va avoir peur. Il a peur de Saül, donc il s'enfuit, et puis il est chez les ennemis, il a aussi peur, parce qu'eux se rendent compte qu'ils ont parmi eux un héros d'Israël, quelqu'un qui a déjà vaincu les Philistins. Et donc, ils commencent à s'intéresser à lui, et David fait semblant d'être fou. Alors, ça, on peut trouver ça amusant, mais en fait, David est en train de tromper les autres et de mentir plutôt que de dire la vérité. Alors on va prendre la lecture au chapitre 22. Chapitre 22, dès le début du chapitre, il sera projeté aussi. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui. Et il devint leur chef. Ainsi, ce fut environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. » Va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. David s'en alla et se rendit dans la forêt des Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamaris à Gibea, sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjaminite, le fils d'Isaïe, David, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? » Doeg, l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Akitoub. Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Akitoub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit « Écoute, fils d'Akitoub. » Il répondit « Oui, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Isaïe et toi? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée Et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi, il s'attaque à moi et me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui. » Achimélec répondit au roi, « Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David? Il est le gendre du roi, il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Certainement pas. Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit dans ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Le roi rétorqua, « Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. » Jusque-là, notre lecture. Ici, nous allons voir que être fidèle au Messie coûte cher. Être fidèle au Messie coûte cher. David n'est plus tout seul, il a été tout seul au chapitre 21. Au chapitre 22, il y a d'autres personnes qui le rejoignent. D'abord sa famille et puis des gens qui vont devenir ses amis. Regardez au verset 2 comment ces gens-là sont décrits. Ils sont dans la détresse, ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui. Quelle bande de gens! Ils étaient en détresse, en dette et en dépression. Mais en fait, quelque part, c'est normal. Parce que c'est souvent ceux qui ont des problèmes qui se tournent vers Dieu. Vous avez remarqué que ceux qui n'ont pas de problème se disent « j'ai pas vraiment besoin pour le moment, j'ai pas besoin d'aide. » Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il leur manque quelque chose. Tandis que ceux qui vivent des crises dans cette vie, souvent se disent « mais je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai besoin d'aide. » Et ils se tournent vers Dieu dans la foi. Ça nous montre aussi que des vrais fidèles, des gens croyants, peuvent passer par ces problèmes. Détresse, dette, dépression. Vous savez, de temps en temps, on entend qu'un prédicateur a prêché « Soyez fidèles à Jésus et il ne vous arrivera rien de mal, rien de tout ça. » Ah, c'est beau. C'est très vendeur comme message, n'est-ce pas? Parce que tout le monde veut une vie sans problème. Le problème, c'est que la dure réalité de la vie montre que celle-là est une fausse promesse. Dieu ne nous a pas promis que si on le suivait fidèlement, on n'aurait aucun problème. Qu'on n'aurait jamais des problèmes d'argent ou de dette, qu'on n'aurait jamais, on serait jamais face à des choses qui sont difficiles à payer ou à digérer, qu'on n'aurait jamais des mauvais sentiments ou une humeur noire ou des pensées noires. Mais non. Mais cette bande de gens, cette bande d'hommes, viennent autour de David. Alors on peut penser qu'ils sont un peu mécontents de Saül et des impôts de Saül, et qu'ils veulent simplement un changement de régime. Ils disent, ben voilà, on voudrait un autre gouvernement, on voudrait un autre roi. Mais David ne leur a pas donné une vie confortable. David n'est pas au palais, ce n'est pas des gens qui se rassemblent autour de lui en disant, mais est-ce que tu peux nous donner un métier? Il est dans une grotte quand les autres viennent le retrouver. Et il est un fugitif dans le pays. Ce n'est pas donc la belle vie que David est en train de leur offrir. D'ailleurs, Saül le dit aussi au verset 7, quand il parle à ses hommes, il dit, est-ce que, je cherche le verset 7, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Et la réponse est non, il ne peut pas faire ça. David n'a rien à leur offrir. Donc il y a quelque chose de plus profond que cela. Les hommes qui viennent à Adullam être dans la cave, dans la grotte avec David, ils espèrent en lui. Ils sont fidèles à David. Ils ont discerné que le vrai roi, c'est lui et pas Saül. Et donc même s'ils sont en détresse, ils n'ont pas d'argent à donner, ils se rangent de son côté. Et ça va leur coûter très cher. Ça va leur coûter cher, cette fidélité au vrai Messie. Parce qu'eux vont devenir des fugitifs aussi, pourchassés par Saül et son armée dans le désert. Mais ils savent qu'il vaut mieux être dans le désert avec le Messie qu'être dans le palais avec le roi déchu. Nous avons tous des choix à faire. Et Saül nous montre que nous avons un choix à faire entre les rois et les gouverneurs dans nos pays, dans nos sociétés, et notre vrai roi, notre vrai chef, qui est Jésus-Christ, qui doit régner sur notre vie. Regardez comment Saül parle à ses serviteurs. Pourquoi, verset 8, Avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi, qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui? C'est très manipulateur le discours de Saül. Parce que ce que Saül dit est faux. C'est l'opposé de ce qui se passe. David n'est pas en embuscade contre Saül, c'est Saül qui essaye de le tuer. Saül est l'assassin dans l'histoire et David est le fugitif. David n'est pas un rebelle, il s'enfuit pour épargner Saül et pour sauver sa vie. Mais l'oppresseur, par ses paroles, essaye de gagner la compassion des autres, essaye de se peindre, dépeindre comme la victime. Oh, pauvre moi, il n'y a personne qui pense à moi ici, quand il est l'homme le plus puissant du royaume. Il se présente comme la victime d'un complot machiavélique. Et au fond, quand il parle comme ça, ça montre que même les serviteurs de Saül n'étaient pas vraiment de son côté. Les serviteurs de Saül savent bien que David est le vrai roi légitime. Malheureusement, il y a une exception. C'est un traître, Doeg, qui va s'avancer. Doeg vient d'un pays voisin, de Édom. Il ne vient pas d'Israël. Et il est prêt à trahir Achimélec et à le faire mourir. Il va lui-même le faire mourir quand personne d'autre ose tuer un prêtre. Achimélec, quand il se présente devant Saül, il parle en toute naïveté. Quand on a lu ça ensemble avec nos enfants, ils étaient en train de dire « Ah non, tais-toi, c'est pas ça qu'il faut dire ». Parce qu'il dit des choses qui, quelque part, montrent qu'il est fidèle à David plutôt qu'à Saül. Et ça finira par lui coûter cher. Il payera de sa vie. Il va mourir ce jour-là à cause de sa loyauté à David. Et pourtant, il n'avait pas fait grand-chose. On pensait tout à l'heure aux petits choix, aux petites choses dans lesquelles nous devons être fidèles. Et lui, il avait simplement donné du pain. Il avait simplement donné une épée, prêté presque une épée qu'il avait dans sa cave, dans son grenier. Mais cette loyauté, petite dans un sens, cette loyauté était une horreur aux ennemis de Dieu. Le verset 19 en fait montre que toute la ville de ces prêtres va être dévastée. Même les enfants, les bébés, les animaux, tout va être tué. Saül ne l'avait pas fait pour les Amalékites, ses ennemis. Mais il l'a fait pour cette ville avec des fidèles serviteurs de Dieu. Être fidèle au Messie coûte cher. On le comprend à travers ces versets. Et vous savez, c'est vrai aussi pour les chrétiens. Dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, il relate comment les chrétiens ont vécu au chapitre 10, en évoquant qu'ils étaient prêts à perdre des biens. Les gens ont eu des biens confisqués. Il parle de comment ils ont perdu leur réputation, ils étaient prêts à s'identifier avec ceux qui étaient en prison, qui avaient perdu leur liberté à cause de leur foi en Jésus. Dire que Jésus est Seigneur, ça coûte cher. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait si ça nous coûte cher? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on sait qu'il y a aussi une protection. La confiance des chrétiens sera récompensée. Il dit en Hébreux, chapitre 10, juste après avoir dit « Vous avez mis votre espérance, ça a été coûteux pour vous d'être solidaire avec les chrétiens persécutés. » Il dit « Mais votre espérance sera récompensée. » Dieu assure qu'il va protéger les fidèles, pas de la souffrance, ni de la persécution, ni même de la mort, parce qu'il y a des martyrs aujourd'hui pour le Seigneur. Mais il nous garde pour la vie éternelle, en relation avec lui et en sûreté avec lui. Nous savons que rien ne peut nous enlever à Dieu. Que nous mourions ou pas, nous sommes toujours vivants avec lui. Et c'est ce que David assure l'homme qui vient vers lui, qui est le fils d'Akitoub, au chapitre 22, verset 23. David reconnaît ses torts. Il voit que c'est à cause de lui, en fait, quelque part, que Achimélec a été mis à mort. Et il dit au fils qui s'appelle Abiathar, « Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. » Étrange promesse, n'est-ce pas? Mais c'est ce que le Messie peut faire. Il peut protéger ceux qui se confient en lui. Au chapitre suivant, les choses deviennent plus compliquées. La différence entre ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles va devenir encore plus forte. Ceux qui soutiennent David d'une part et ceux qui le trahissent. C'est vraiment très marquant. Le chapitre commence par une nouvelle guerre. Les Philistins reviennent à la charge, attaquent la ville de Keila, c'est une petite ville en Israël. Et David est informé, il consulte Dieu. Et Dieu veut qu'il aille se battre contre l'envahisseur. Et lui et ses hommes vont tout risquer pour se battre contre l'envahisseur et sauver la petite ville et les habitants de la ville de Keila. On reprend la lecture au chapitre 23. Verset 6. Lorsque Abiathar, le fils d'Akimélec, s'était réfugié auprès de David à Keila, il avait apporté l'éphod avec lui. Alors juste pour clarifier, l'éphod, c'était un moyen de connaître la volonté de Dieu. C'était quelque chose que les prêtres portaient, qui avait des pierres dessus, et on pouvait l'utiliser, on pouvait jeter un dé ou quelque chose comme ça, il y avait un oui-non, et on pouvait choisir ou discerner ce que Dieu était en train de dire de sa volonté. Verset 7. Saül fut informé que de l'arrivée de David à Keila, et il se dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keila et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, apporte l'éphod. Puis David dit, Éternel, Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keila pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keila me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit, il descendra. David répéta, Les habitants de Keila me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, Ils te livreront entre ses mains. Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keila et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keila, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne, dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi je serai ton bras droit. Mon père, Saül, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. Saül dit que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on me dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. On va s'arrêter là pour notre lecture et on va se concentrer sur ces versets. Avec dans ces deux parties, on comprend qu'aucune opposition au Messie ne réussit. Aucune opposition au Messie ne réussit. On voit plusieurs trahisons dans ces chapitres, n'est-ce pas? Et dans ce chapitre, il y a deux trahisons et un fidèle. La première trahison est celle des hommes de Keïla. Ils sont à peine délivrés par David. Ils sont déjà prêts à le livrer. Alors, ce n'est pas encore quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Saül va venir avec son armée contre la ville de Keïla et les quelques croyants, quelques gens là dans la ville, les habitants de la ville, se disent, on ne veut pas terminer comme Nob, qui a été rasé. On va pas tous mourir. On va pousser David vers la porte d'entrée si c'est nécessaire. Comme ça, Saül aura son homme et nous, on sera épargnés. C'est un peu comme ça qu'ils réfléchissent, mais ils ne le font pas. mais ils étaient prêts à le faire. Et donc David va se mettre dans le désert et la course-poursuite continue. Verset 14 nous dit que Dieu ne le livra pas entre ses mains. L'opposition augmente. La course continue. Même des compatriotes de David sont des ennemis. On n'est plus avec les Philistins là. Mais David est en sécurité. Le Dieu vivant a décidé que David ne mourra pas. Il ne sera pas poignardé par Saül. Il ne va pas mourir dans une bataille. Il va régner pendant 40 ans sur Israël et il mourra dans son lit comme un vieillard. Toute cette agitation contre lui, elle est futile, elle est en vain. Je pense à David, mais aussi je pense à Jésus, le vrai Messie. Lorsque Jésus est venu à Jérusalem et que ce n'était pas encore son heure pour mourir, malgré l'opposition des autres qui étaient contre lui, il ne mourut pas. Il échappait à ceux qui voulaient le tuer. Tous les efforts contre lui sont en vain. Et c'est pareil encore aujourd'hui. On veut faire du mal à ceux qui se rattachent à Christ. En fait, c'est en vain. Un exemple auquel j'ai pensé, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a beaucoup marqué les esprits. C'était en France, n'est-ce pas? Et il y avait une mise en scène qui était grotesque, qui se moquait ouvertement de la religion, des chrétiens. Les gens se moquaient de la religion chrétienne. En voyant cela, on pourrait penser que les ennemis ont pris le dessus. Mais Dieu a utilisé ce moment choquant qui était vu par le monde pour que des chrétiens se lèvent d'autres pays et disent, si c'est comme ça la situation en France, on va soutenir encore plus les évangéliques en France et on va donner encore plus d'argent, plus de moyens. Une récolte énorme de fonds a été faite pour les églises en France à cause de cet événement. Finalement, les efforts contre Dieu sont en vain. Et l'auteur nous le montre parce que, après avoir montré la futilité de cet attentat, Saül qui cherche après David, mais David s'enfuit, il est introuvable pour le roi Saül. Quelqu'un qui va le trouver, c'est Jonathan, le prince fidèle, qui va le trouver et il va le fortifier. Parce qu'à ce moment-là, en fait, David est assez faible. Ça nous marque que David n'est pas comme Jésus, bien entendu. Aucun homme n'est comme Jésus, vraiment. Jésus était tellement parfait, tellement noble, tellement juste. Et David, malheureusement, a montré tout le côté négatif qui va sortir après. Il a montré sa manipulation. Il a montré sa tromperie, des choses qui vont revenir plus tard dans sa vie. Mais dans sa faiblesse, David, comme chacun de nous, a besoin d'un ami, quelqu'un qui vient, qui va le fortifier dans sa foi. Nous avons besoin de cela. Et j'espère que, même si nous venons, nous sommes beaucoup à venir à l'église seuls, nous n'avons pas tous notre famille chrétienne. Et donc, si nous pouvons trouver à l'église, ne fût-ce qu'un ami, une amie qui peut nous encourager dans notre foi, qui dit, je prie pour toi, je m'intéresse à toi, est-ce que ça va? Ça va vraiment nous aider. On a besoin de Jonathan dans notre vie. Mais Saül, Jonathan n'est pas seulement un ami. Il est en train de reconnaître que David va régner. Regardez ce qu'il dit au chapitre 23, verset 17. C'est une déclaration incroyable, verset 17. Il dit d'abord, n'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Il sait que son opposition va être futile. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton bras droit. Alors au final, ça ne va pas se passer comme ça. Mais il était prêt à laisser David régner. Jonathan, comme on l'a vu, était un candidat tellement doué. Il était héritier au trône. Mais il a voulu que le vrai Christ, le roi choisi par Dieu, règne. Il était content que David puisse régner et que lui serait en arrière-plan quelque part. David doit être le premier. Et puis il dit, mon père le sait bien aussi. Même Saül savait qu'une fois que Dieu a décidé quelque chose, même si on fait tout ce qu'on veut, c'est la volonté de Dieu qui se fera. Et on ne pourra pas l'empêcher. Qu'est-ce que c'est futile de s'opposer à Dieu? Je pense à ce psaume 2, le psaume 2 que vous pouvez lire dans la Bible, qui dit: pourquoi cette agitation parmi les peuples? Pourquoi est-ce que les nations se liguent contre l'Éternel et contre celui qui l'a oint, le Messie? C'est en vain. Et quelle est la réaction de Dieu? Il rit. L'Éternel se moque d'eux, parce que toutes les armées du monde ne peuvent pas faire dérailler le plan de Dieu. L'opposition de Dieu est futile et nous devons apprendre de Jonathan à ne pas croire que nous sommes chefs de notre vie, chefs de notre domaine, chefs de notre petit royaume, chefs de notre destin. Non, notre vie est entre les mains de Dieu et c'est ce que Dieu décide qui se fera. Mais nous avons aussi à comprendre que Jésus a le droit en tant que Messie de régner sur nous, régner sur notre vie. On a eu une première trahison, on a eu un fidèle, Jonathan, fidèle ami. Puis il y a une deuxième trahison qui a lieu dans ce chapitre, les personnes de Ziph, dans les endroits sauvages, les collines, les forêts. Eux voient qu'il est assis sans homme avec David, et ça se remarque bien entendu, et ils savent où il se trouve, et eux s'offrent spontanément à Saül. Les gens de Keila étaient prêts à dire à Saül, s'il le fallait, ils étaient menacés, ils étaient prêts à livrer David. Mais les gens de Ziph vont aller trouver Saül et dire: Ouais, il est chez nous. Tu peux venir l'arrêter, le tuer. Mais encore une fois, ce n'est pas un grand geste. Ils n'ont tué personne. Ils ont simplement dit que s'ils voulaient de l'information, ils pourraient le donner. Ils pourraient le livrer. Et alors, Saül peut faire ce qu'il voudra. On a parlé des petites choses, petites décisions qui montrent notre loyauté, notre grande décision. Mais vous savez que c'est aussi vrai avec le péché. Parfois, les petites choses affectent notre vision du monde et de notre vie. Je sais que si je commence la journée en lisant les infos, par exemple, plutôt qu'en lisant la Bible, ma journée va être orientée par des pensées de ce monde, plutôt que par la vérité que Dieu me révèle, qu'il est souverain sur toutes choses. Ma foi ne va pas être fortifiée en commençant ma journée, parce que j'ai décidé de ne pas écouter la parole de Dieu. Si je décide de me plaindre quand j'ai un souci ou quand j'ai un problème, plutôt que de prier et dire: Seigneur, j'ai besoin d'aide, ça va aussi colorer la façon dont je vis. Vous voyez, le résultat, c'est que nous n'allons pas grandir en tant que chrétiens si les petits pas que nous prenons sont plutôt des petits pas vers le péché que des petits pas vers Dieu et dans la dépendance de Dieu. On n'arrivera pas à accomplir la volonté de Dieu si on manque aux petits rendez-vous et aux petits pas. Eux, ils ont fini par trahir le Messie. Et Saül est prêt à aller assassiner David. Mais il dit: ah, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Ce langage religieux peut parfois cacher un cœur qui s'est détourné de Dieu. On ne doit jamais être trompé par les apparences. Saül faisait bonne figure, mais son cœur était loin de Dieu. Notre chapitre, néanmoins, se termine par une course-poursuite qui est ratée. Ça va être fascinant, mais Saül et son armée va avancer. Il sait maintenant où se trouve David et il va être d'un côté de la montagne ou d'une grande colline. Il est tout prêt d'atteindre David. David est de l'autre côté avec ses hommes, mais Saül ne pourra pas le capturer. Il va être alerté du fait que les Philistins, l'armée ennemie, est en train d'envahir. Et donc, il interrompt sa poursuite de David pour retourner se battre contre les Philistins. Ça nous montre qu'aucune opposition au Messie ne réussit. Et ce qui est amusant dans ces chapitres, avec les Philistins particulièrement, c'est qu'au chapitre 21, ils ont été trompés par David. Au chapitre 22, ils ont été vaincus par David à Keila. Et au chapitre 23, c'est à cause de leur attaque que David est épargné. Franchement, ils ont gagné, ils n'ont rien gagné. Les soldats des Philistins, ennemis du Messie, en ligue contre le Messie, ressemblent à ces petits soldats en plastique avec lesquels mes enfants jouaient quand ils étaient petits. Prenez une centaine d'eux, vous les écrabouillez avec vos pieds. Ils sont tout petits. Et c'est pareil avec toute personne qui essaye de s'élever en rebelle contre Dieu. Mais je veux terminer en pensant à nous. Comment nous pouvons être fidèles à Jésus-Christ? Dieu nous appelle à être fidèles à notre Messie, pas à David, mais à notre Messie qui est Jésus-Christ, celui qui a choisi pour être le Messie. Jésus est allé à la croix pour nous, il a pris nos péchés, il est mort pour nous, il est ressuscité. Il règne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à Jésus-Christ? Ben d'abord, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à dire « je crois vraiment que Jésus est le Messie » ben, c'est bien de le dire à l'Église. Est-ce que tu serais prête à le dire au travail? Je ne parle pas de faire une annonce à la cantine, mais dans une conversation avec un collègue. Ah, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui a juste un arrière-plan chrétien ou qui vient d'une famille chrétienne. Moi, je crois que Jésus, il est le Messie. C'est ce que je crois. Est-ce que tu serais prêt à dire ça? Peut-être que tu vas dire, mais Paul, mais ça coûte cher de dire ça. Ce sera difficile de pouvoir dire ça avec mes amis non-croyants, ma famille, mes collègues. Oui, ça coûte cher. Mais être fidèle au Messie, ça coûte cher. C'est comme ça. Ça ne doit pas être un secret que nous croyons réellement au Seigneur Jésus. Et lorsque nous le disons, il y a quelque chose de plus fort qui se passe dans notre foi. On n'est plus des chrétiens en cachette. On est ouvertement loyal au Messie. Mais une autre idée, ce serait de parler de notre fidélité au Messie, pas seulement à croire en Jésus le Messie, mais aussi lui confier toute notre vie. Les problèmes de notre vie, comme les hommes à Adoulam, sont venus de David, on a plein de problèmes, on veut que tu t'occupes de nous. C'est une démarche chrétienne de dire ça. Seigneur, je m'en sors plus là, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide, viens à mon secours. Oui, bien sûr, Dieu fait cela lorsque nous lui demandons. Mais aussi, nous devons être prêts à donner nos aspirations à Dieu. L'attitude de Jonathan est aussi fidèle au Messie, parce que dans sa foi, Jonathan était prêt à soumettre son projet de vie à Dieu et à David. Je veux que tu règnes sur moi, je veux que tu sois le numéro un, et plus moi. Est-ce que vous êtes prêts à apporter au Seigneur, pas seulement vos problèmes, mais aussi vos projets, en disant, les voilà, prends-les, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Si Dieu a accepté quelque chose que nous avons proposé, c'est bien, mais si Dieu a décidé autrement, est-ce que nous sommes prêts à revoir notre projet de vie? Ce n'est pas exactement comme nous l'avions imaginé, mais prêt à accepter que Dieu sait mieux que nous. C'est ça, être fidèle dans les petites choses. Mais qu'est-ce qui se passe si nous l'avons trahi? Qu'est-ce que Dieu fait avec ceux qui, vous savez, on était en discussion, on a eu un peu peur, on se disait, mais je n'ai pas vraiment envie de... Non, moi je ne suis pas chrétien, non, je ne sais pas, il faut demander à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ou vous avez été tellement déçu par les églises, que vous avez laissé tomber l'église, laissé tomber la foi. Nous avons parlé en mal de Dieu. Dans un des psaumes, il parle de dire du mal de Dieu. Il dit, si je parlais ainsi, je trahirais tes enfants. Dire du mal de Dieu, c'est trahir les enfants de Dieu. Peut-être que nous avons fait cela, peut-être que c'est le cas pour toi. Bien, sache que tu peux être récupéré. Il est encore temps pour dire, Seigneur, pardon, je me rends compte que je t'ai trahi. Je n'ai pas été fidèle quand c'était coûteux pour moi. Je n'ai pas été fidèle quand je devais l'être. Je n'ai pas osé parler pour toi. Je n'ai pas osé m'afficher pour toi. Eh bien, sache que David, après ce moment de faiblesse dans sa vie, il a été récupéré par Dieu. Il a pu être un croyant fidèle, un serviteur de Dieu. Simon-Pierre aussi, qui avait dit, « Ah non, moi je ne connais pas Jésus. » Jésus l'a pardonné, il a pu le restituer à son service. Nous devons laisser de côté nos péchés, mais nous pouvons être rétablis par Dieu parce que Dieu veut qu'on soit fidèle, fidèle désormais, dans les petites choses et dans les grandes choses, pour sa gloire. Je vais prier ensemble que Dieu agisse dans notre cœur et dans notre vie. Père Céleste, nous sommes conscients que nous sommes nécessiteux devant toi, nous avons besoin de ton aide, nous sommes parfois très faibles. Dans notre détresse, dans nos doutes, dans notre peur, dans notre crainte, nous avons péché contre toi, nous avons oublié ta grandeur et ta puissance et nous avons manqué de foi. Alors pardonne-nous. Pardonne aussi nos manquements quand nous avons trahi ton nom. Nous n'avons pas osé dire que nous étions chrétiens. Mais maintenant, fortifie-nous pour que nous puissions être comme ceux qui sont fidèles au Messie, celui que tu as choisi pour régner sur nous. Demandons cela au nom de Jésus. Amen.